L'homme a besoin d'espérance. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
J'ai écouté une interview cette semaine avec intérêt d'un ancien président de la République. Bon, une fois qu'on en est là, il n'y en a plus que deux. Hein. Et il disait croire en Dieu. Mais en tant que président, il sentait que c'était un peu peut-être problématique. Donc il a ajouté deux choses. Il a dit déjà, ce n'est pas contraire à la laïcité que d'annoncer sa croyance. Et la deuxième chose, il a dit, mais je suis surtout un espérant. Comme pour renvoyer, en fait, aux journalistes que, en fait, ça concerne tout le monde. Parce que chacun espère en quelque chose. Votre patron a besoin d'espérance. Votre collègue a besoin d'espérance. Votre voisin a besoin d'espérance. Qu'il soit croyant ou non. Qu'il soit musulman, bouddhiste, athée, qu'il soit terrien, j'ai découvert ce que c'était cette semaine, qu'il fasse des câlins aux arbres, qu'il s'apprête à voter Mélenchon, Le Pen, Philippe, désolé pour tous ceux que je ne vais pas citer, l'homme a besoin d'espérance. Et on l'a rappelé au début de ce culte, cette semaine, nous avons eu besoin particulièrement d'espérance. En cette période de rentrée, les attentes étaient sans doute plus fortes qu'à l'accoutumée. Les parents avaient des attentes pour leurs enfants. Vous êtes une bonne maîtresse, qu'ils soient avec leurs bons copains. Les étudiants avaient des attentes, qu'ils aient un bon emploi du temps. Les actifs avaient des attentes, que cette ambiance de travail change enfin, que mes compétences soient reconnues. Même les retraités avaient des attentes, que les actifs et les enfants retournent à leur activité pour que eux puissent partir en vacances. En fait, nous avons besoin d'espérance. Car nous avons des attentes, et nos attentes ne sont pas toujours comblées. Ce matin, nous continuons notre mini-série de rentrée, commencée la semaine dernière et intitulée « Dans l'incertitude, rassurée par l'Évangile ». Nous sommes dans l'évangile de Jean, dans les chapitres 14 à 16, et dans notre passage du jour, nous allons voir comment le Dieu trinitaire veut nourrir notre espérance pour faire face à nos attentes déçues, pour faire face aux troubles de l'existence. Et ce matin, vous allez voir que nous allons être profondément encouragés, parce que nous n'avons pas qu'un seul garant de notre espérance. Nous en avons deux. Deux gardes, deux défenseurs de notre espérance, afin que, face aux incertitudes de la vie, nous soyons pleinement rassurés. Alors je vous invite à poursuivre la lecture dans l'évangile de Jean. Prenez vos Bibles, si vous les avez avec vous, pour pouvoir vous promener dans ce passage. Le texte sera projeté comme à l'habitude, et je lis donc les versets 15 à 31. Chapitre 14. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis, et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que je suis moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous et partons d'ici. Notre passage, donc repris à partir du verset 15, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il va donc s'en aller, et qu'il va s'en aller sans eux. Et vous imaginez que cela a jeté un froid. Et Jésus, dans la première partie, a commencé à rassurer ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et après donc avoir rassuré ses disciples, il continue dans notre passage de ce matin. Il continue en cherchant à nourrir profondément cette espérance pour ses disciples, notamment quand les attentes sont mises à mal. Et dans notre texte, avec le plan pour nous ce matin, il le fait de deux manières. Il le fait à travers les deux défenseurs, avec chacun un rôle différent. La première manière, c'est en nous posant, à travers le premier défenseur, Jésus, une question essentielle. Une question essentielle à nous poser, justement, de quand nous sommes dans l'incertitude. Et il le fait aussi d'une deuxième manière, à travers une promesse décisive, celle de l'envoi du second défenseur, le Saint-Esprit, appelé, lui aussi, à défendre notre espérance. Et c'est donc ce que nous allons voir ce matin. Et on commence donc avec cette question essentielle que nous pose Jésus. Une question qu'il pose plus particulièrement, je pense, à nous qui avons choisi Jésus dans notre vie, qui pensons que maintenant nous sommes sur de bons rails, que nous avons fait le bon choix, que nous sommes à l'abri, parés pour affronter les difficultés de la vie. Nous avons affaire dans ce passage, et Rémi nous l'avait rappelé la semaine dernière, me semble-t-il, peut-être au moment le plus déstabilisant de l'histoire de l'humanité. Vous allez me dire, t'en fais peut-être un peu beaucoup là. Bon, ok, un bon ami des disciples, Jésus, dit qu'il va s'en aller. Toujours triste des gens qui déménagent. Mais bon, par rapport à un cancer, par rapport à un deuil, c'est quand même pas la fin du monde, non ? Pourtant, les termes employés par Jésus dans ce passage ne laissent pas de place au doute. Les disciples sont au plus mal. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne s'alarme pas. Pourquoi un tel désarroi ? Parce que, je pense, les disciples ont l'impression qu'on est en train de leur voler leur espérance. Alors qu'ils avaient placé leur espérance dans la personne la plus fiable qui soit, tout semble soudain faire pchit. J'ai commencé en disant que nous avons tous besoin d'espérance. Mais c'est vrai que parfois, nous plaçons dans notre espérance dans des choses qui font pchit. Tu veux savoir si tu places ton espérance dans quelque chose qui fait pchit ? Demande-toi ce qui provoque tes plus grandes joies. Les bons résultats de ton équipe de foot préférée, tes passe-temps fun, pouvoir s'adonner à tes passions, ta réussite matérielle, professionnelle, sociale, le fait de passer du bon temps, des temps de qualité avec tes amis, avec ta famille, de te savoir aimer. Il y a une place pour la joie dans toutes ces choses, hein. Mais je crois qu'on ne devrait pas confier notre joie en quelque chose de fragile, qui peut faire pchit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas un grand pouvoir sur les performances de mon équipe préférée. Ce serait sans doute pas sage de lui confier toute ma joie. La réussite, rien ne la garantit. Même pas tous mes efforts. Et puis comme le dit l'Ecclésiaste, tout passe. Les enfants quittent le foyer. La vieillesse nous enlève même celui avec qui nous avons partagé toute notre vie. Frères et sœurs, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Et à ce moment de leur vie, les disciples, c'est sûr, ils avaient la certitude que leur cœur n'allait plus se troubler, n'allait plus s'alarmer. Pourquoi ? Bah parce qu'ils avaient mis leur espérance, leur joie, en la valeur la plus sûre qui soit, Jésus. Ils l'avaient vu faire tant de choses incroyables. Ils s'étaient émerveillés quand ils l'avaient vu guérir des aveugles, libérer des captifs. Ils avaient applaudi quand il avait multiplié les pains. Ils avaient entendu ses paroles puissantes. « Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Ils avaient appris à se réjouir des choses essentielles. « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Ah oui, ils avaient bien connu des oppositions, des outrances, la faim, le dénuement. Mais là aussi, Jésus les avait défendus à chaque fois. Il avait à chaque fois tout renversé. Leur espérance, leur foi avaient grandi au fur et à mesure qu'ils avaient suivi Jésus. Ils en étaient sûrs. Ils avaient misé sur quelque chose qui ne ferait jamais pchit. Et ils l'avaient confessé. À qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et voilà que Jésus annonce qu'il part. Le capitaine quitte le navire. Le sol se dérobe sur le pied. Inconcevable, inimaginable. Encore plus quand le capitaine, c'est Jésus. Vous comprenez pourquoi on peut dire que c'est le moment le plus troublant de l'histoire de l'humanité ? Petite espérance, petite déception. Grande espérance, incommensurable déception. Et en Jésus, il y a plus qu'une grande espérance. Alors, nous l'avons vu la dernière fois, Jésus cherche à rassurer ses disciples. Il veut les assurer que ce qu'ils ont suivi n'est pas un écran de fumée, quelque chose qui fait pchit. Vous vous rappelez comment nous avions été encouragés la dernière fois à travers ces trois pictogrammes ? Jésus leur rappelle qu'il est bien en train de leur préparer une place auprès du Père. Ça tient toujours. Il leur rappelle qu'il est bien le chemin, la vérité et la vie. Ça tient toujours. Il leur rappelle que voir Jésus, c'est voir le Père. Et dans ce passage, il passe au second volet de sa consolation. Il veut préparer les disciples à vivre en son absence, comme s'il était encore là. Il veut qu'ils comprennent en fait que sa présence physique n'est pas l'essentiel. Même absent, Jésus va continuer d'être leur défenseur. De quelle manière ? Vous l'avez peut-être entendu à la lecture du texte tout à l'heure. On peut dire qu'il a insisté. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Si vous m'aimez, suivez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Si vous m'aimez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père. Est-ce que Jésus est dans le chantage affectif du style « Si vous m'aimiez, vous sauriez comment prendre soin de moi. » C'est tout le contraire. Dans une certaine mesure, il réoriente une affection qui aurait pu être mal placée des disciples. Jésus est en train de leur dire « Je pars, mais l'essentiel reste. Parce que désormais, vous savez comment vivre. Vous voyez clair sur vous-même. Vous savez en quoi vous réjouir. Je pars, mais ça n'est pas la fin de l'histoire. Ça n'est pas la fin de notre affection mutuelle. Vous pouvez continuer à m'aimer. J'irai même plus loin. Il est probable qu'il faille que Jésus parte pour que l'amour des disciples puisse continuer de progresser. Parce que tant que Jésus est là physiquement, c'est comme si quand Jésus veut leur montrer l'essentiel, les disciples regardent ailleurs. Ce qu'ils vivaient avec Jésus était tellement enthousiasmant, tellement époustouflant. Vous imaginez toujours un coup de théâtre, toujours un renversement de situation qui fait qu'on s'en sort bien. Comment voir que Jésus était venu changer leur vie, ce qui coinçait en nous. Et en fait, à travers ces propos, c'est comme si Jésus posait une question à ses disciples. La même question qu'on retrouve à la fin de l'évangile de Jean, dans la bouche de Jésus, quand il s'adresse à Pierre pour le relever. « Pierre, m'aimes-tu ? » Non mais, « m'aimes-tu vraiment ?» Et cette question, je pense qu'il nous la pose à tous ce matin. Rob, m'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ? Jean-Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ? Anne-Rose, m'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ? Et c'est pas vrai que pour le premier rang, hein, c'est aussi vrai pour le dernier. Kader, m'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ? Elisabeth, m'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ? On ne mettrait plus au dernier rang désormais. Aujourd'hui encore, on peut avoir une fausse idée de ce que veut dire aimer vraiment Jésus. Comme pour les disciples. Aimer Jésus, ce n'est pas se retrouver dans une ambiance où on se sent bien. Et j'espère que vous vous sentez bien ce matin, même si j'en ai mis certains mal à l'aise. Ça n'est pas être avec des gens avec qui on se sent bien. Et j'espère que vous avez retrouvé ce matin des gens avec qui vous vous sentez bien. Ça n'est même pas vivre une expérience où on se sent bien. J'espère que la louange vous a permis de vivre une certaine expérience avec Dieu. Aimer Jésus, c'est très clair dans ce passage. C'est aimer ce qu'il dit. Pardonner, supporter, se repentir. C'est aimer faire ce qu'il dit. Être fidèle. Faire passer l'autre avant soi, réfléchir à comment parler de lui à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est aimer ce qu'il fait, même quand ça nous coûte, même quand les choses ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent. M'aimes-tu vraiment ? Au milieu de l'incertitude, du trouble, des inquiétudes, des frustrations, il n'y a pas de question plus urgente à entendre de la part de Jésus. M'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ? Elle réoriente nos attentes, nos préoccupations, nos affections. Elle nous rappelle que si Jésus est notre espérance, que si notre relation avec lui est ce qu'il y a de plus important, eh bien, nous sommes heureux. Car rien ne peut altérer cela. On l'a redit ce matin. Chaque situation peut participer à forger Christ en nous. Si notre relation avec Christ est ce qu'il y a de plus important, alors nous sommes heureux, car rien ne pourra l'enlever. Cependant, la consolation de Jésus face aux troubles et aux incertitudes ne s'arrête pas là. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon nous serions voués à échouer. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, ce n'est pas une nouveauté de la Nouvelle Alliance. Hein. C'était un commandement bien connu des disciples avant de rencontrer Jésus. Et on peut dire qu'ils avaient, comme tout le reste du peuple de l'Ancienne Alliance, échoué dans les grandes largeurs. En Jésus, Dieu leur est devenu plus familier à eux. Et oui, le départ de Jésus pouvait être synonyme de retour en arrière. De retour, comme on l'a vu, faire ce que Dieu dit, à une liste de commandements à faire ou ne pas faire, une liste de règles moralistes. Et c'est là qu'intervient le coup de théâtre de Jésus. Il s'en va, mais il ne les laisse pas orphelins. Il va être absent, mais toujours présent. Il y aura un autre défenseur de l'espérance. C'est cette promesse décisive, bien sûr, de l'envoi du Saint-Esprit. Et la manière dont Jésus en parle ici est riche d'enseignements sur la manière dont ce Saint-Esprit joue un rôle décisif comme défenseur de notre espérance. C'est notre deuxième point. Déjà, en écoutant Jésus, on comprend que le Saint-Esprit vient à nous comme troisième personne de la Trinité. Vous savez que le mot « Trinité » n'est pas utilisé dans nos Bibles. Mais on peut dire que vraiment l'enseignement d'un Dieu en trois personnes est très précis dans ce passage. Prenez ce que Jésus dit au verset 17. « L'Esprit de vérité doit venir en vous. » Et puis au verset 23. « Le Père et lui » alors c'est Jésus qui parle, pardon, j'ai mal remis le verset, « viendront faire leur demeure dans la vie des croyants. » L'Esprit de vérité doit venir en vous, mais c'est le Père et le Fils qui viendront faire leur demeure dans la vie des croyants. Alors, c'est qui? C'est l'Esprit ou c'est le Fils et le Père? À qui dois-je donner ma vie? À Jésus ou au Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a interchangeabilité? Est-ce qu'il faut conclure que, finalement, l'Esprit n'est qu'une forme nouvelle de la présence de Jésus dans nos vies? Ben non. Parce que sinon, Jésus ne préparerait pas ses disciples à son départ. Il ne parlerait pas d'un remplaçant. Il ne veut pas que les disciples pensent qu'il revient sous une autre forme. Sinon, il dirait « je pars », mais il ne part pas vraiment. Il n'y aurait pas toute cette tristesse. Mais il ne veut pas non plus qu'ils pensent que ce n'est pas vraiment lui qui revient. Il affirme « mon Père et moi, nous ferons notre demeure en vous ». Vous suivez ? Compliqué, hein. C'est peut-être l'argument le plus décisif en faveur de la foi chrétienne. Parce que franchement, si quelqu'un avait voulu inventer une nouvelle religion, à partir d'un truc pareil, c'est pas très marketing. Et pourtant, 2000 ans après, notre espérance dans le Dieu trinitaire est bien toujours présente. Dans ce passage, cela se traduit ainsi. Jésus dit qu'il est tellement un avec l'Esprit que quand l'Esprit vient, c'est lui qui vient. Mais dans le même temps, c'est pas pareil. Il n'est pas identique avec l'Esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'il part et qu'un autre vient à sa place. Dieu est un, mais il n'est pas seul. Dieu est un, son amour, sa communion en lui-même est indissociable. Mais il n'est pas seul. Il vit en lui-même un amour qui se donne et qui se reçoit. Et c'est au sein de cet amour trinitaire que Christ veut nous entraîner pour nourrir notre espérance. Parce qu'en recevant la troisième personne de la Trinité, dont la mission est de rendre témoignage à la deuxième, eh bien nous goûtons un peu de cet amour trinitaire, l'amour véritable que Jésus aspire pour nous. Vous voulez savoir comment aimer Jésus ? Eh bien c'est le Saint-Esprit qui nous permet de l'aimer vraiment. Deuxième chose que fait le Saint-Esprit, il opère un transfert entre ciel et terre. Référence au jeûne d'un fameux chant bien connu qui pose un certain nombre de problèmes théologiques. Mais je laisse cette discussion pour la collation fraternelle. Par contre, dire que le ministère du Saint-Esprit consiste à opérer un transfert entre ciel et terre, et ça me semble assez bien correspondre à ce que Jésus est en train de dire dans le passage ici. Rappelez-vous comment notre passage a démarré, pas aujourd'hui, dimanche dernier. Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait leur faire une place dans les demeures de son Père. Et aujourd'hui, que dit-il? Il affirme que lui et son Père viendront faire leur demeure, et c'est le même terme, dans la vie du croyant. On peut voir dans ces paroles comme un transfert des bénédictions célestes à venir aujourd'hui dans la vie du croyant, dans ses réalités terrestres. Le Saint-Esprit applique déjà pour nous ce que nous allons vivre quand nous serons pleinement avec Dieu, et notamment cette fameuse paix que Jésus promet dans ce passage, aujourd'hui, alors que nous sommes toujours dans un monde déchu, alors que c'est compliqué, nous pouvons vivre ces bénédictions célestes. Le Saint-Esprit nous donne un avant-goût du ciel. Il le fait en nous donnant d'avoir part, dès maintenant, dans nos réalités troublées, à la paix pleine et entière que nous aurons quand nous serons avec Dieu. Vous voyez comment le ministère du Saint-Esprit est indissociable de celui de Jésus ? Vous voyez comment le Saint-Esprit nous amène à toujours plus aimer Jésus. Enfin, dernière manière dont le Saint-Esprit est un défenseur, lui aussi, de notre espérance, il se présente comme un défenseur en justice. À la suite de la traduction de la Semeur, j'ai parlé de défenseur tout au long du message, plutôt que consolateur, que vous avez peut-être dans vos traductions ouvertes sur vos genoux. Le mot grec qui est traduit ici, vous l'avez sans doute déjà entendu, hein, c'est un mot qui est utilisé parfois en français, paraclet, paraclétos, qui signifie être appelé à côté d'eux, sous-entendu dans le but de venir aider, plaider la cause. Et c'est pour ça que la Bible du Semeur a préféré cette traduction défenseur, où elle précise même défenseur en justice. Autre défenseur en justice. Ah, pourquoi autre défenseur en justice ? Eh bien parce que nous avons déjà un défenseur en justice. C'est ce que Jésus s'apprête à faire en partant, n'est-ce pas ? Notre espérance commence par un acte de justice. Et pour bien comprendre en quoi consiste cette défense en justice, j'aime beaucoup cette illustration que Tim Keller a utilisée, où il fait une espèce de mise en scène céleste pour qu'on se représente, et bien sûr imagé, à quoi ça pourrait ressembler. Ce qui nous aide à comprendre comment le Saint-Esprit est notre défenseur aujourd'hui. Comment vous imaginez que Jésus s'y prend quand il vient plaider notre cause devant le Père ? C'est imagé, encore une fois. Est-ce qu'il s'y prend ainsi ? Bonjour Père, je représente Nicolas Robin. Mon client, je l'admets, passe une très mauvaise semaine. Il n'a pas respecté 3 ou 4 promesses qu'il a faites. Il a enfreint plusieurs de tes lois qu'il connaît et dont il reconnaît la pertinence. En un mot, il a péché. Et selon ta loi, il mérite d'être puni, mais sois indulgent, mon Père. S'il te plaît, quand même, il est pasteur. Il mérite qu'on lui offre une seconde chance. Est-ce ainsi que Jésus est notre défenseur en justice, en implorant la mollesse du Père ? Non. Si Jésus est notre défenseur en justice, c'est parce qu'il peut réclamer justice. Voilà plutôt à quoi ressemble son plaidoyer. Père, ces gens ont péché. Et d'après ta loi, le salaire du péché, c'est la mort. Mais moi, j'ai payé pour ces péchés. J'ai versé mon sang à la croix. J'ai entièrement payé la sanction que méritait leur péché. Exiger 2 sanctions pour une même faute, ce serait injuste. Je ne sollicite pas ta clémence. Je réclame ta justice. Voilà comment Jésus est notre défenseur en justice. Voilà pourquoi notre espérance ne peut être déçue. Mais nous sommes gâtés. Nous avons un deuxième défenseur en justice. Et nous en avions bien besoin. Parce qu'on a souvent tendance à considérer que ce que Jésus a fait, ce n'est pas vraiment suffisant pour que nous puissions vivre dans l'espérance. Alors que fait ce deuxième défenseur en justice ? Ben vous savez, dans un procès, il y a souvent 2 avocats. Et puis il y en a un qui explique parfois un peu à l'accusé ce qui se passe dans le procès, parce qu'il ne comprend pas très bien. Et ce deuxième avocat, lui, il s'adresse plutôt à nous. Nicolas, c'est vrai, tu es pécheur. Tu es conscient que ton attitude offense Dieu. Est-ce que tu vas te présenter devant lui en comptant sur ta gentille personne ? Non, c'est une autre solution dans laquelle il faut te confier. En Christ, tu es devenu justice de Dieu. Tu es son enfant. Dieu ne t'abandonnera jamais. Que vas-tu faire de cela ? Est-ce que tu vas vivre conformément à la liberté, à l'audace que t'offre ta nouvelle identité en Christ ? Est-ce que désormais, parce que tu es assuré de l'amour de Dieu pour toi, tu vas vivre libéré du besoin de pouvoir, d'approbation, de confort, toutes ces promesses que le monde donne, ou pense, ou promet vouloir nous donner ? Vous voyez un peu comment le Saint-Esprit est notre défenseur en justice, et comment il est le défenseur de notre espérance. Il est temps de conclure. On a souligné au cours de ce message la question essentielle que Jésus nous pose quand nous passons par l'incertitude. M'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ? Et on a vu que Jésus encourage ses disciples à ne pas voir son absence physique comme un frein à cet amour. Bien au contraire. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit était précisément celui qui, dans nos réalités terrestres, nous permettait d'aimer de plus en plus notre Sauveur et Seigneur. Il est celui, comme l'apôtre Pierre dit, qui nous permet de l'aimer sans l'avoir vu, de croire en lui sans le voir encore, nous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Le Saint-Esprit fait vibrer en nous cette espérance qu'un vieux cantique entonne ainsi. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Voilà l'assurance dont nous avons profondément besoin pour vivre la paix profonde que Jésus nous donne au milieu de ce monde troublé. Amen.